Mesdames, messieurs, bonjour à tous. Voilà, vous avez une petite bibliographie qui est proposée à l'extérieur par la médiathèque comme d'habitude. Une bibliographie qui s'affiche aussi sur la projection. Et je vous propose, alors à partir de là, de démarrer avec un lieu qui est un haut lieu artistique, un haut lieu où Michel-Ange a peint sur le plafond les fameuses sibylles, ce qui nous permettra d'introduire finalement cette figure, une figure qui est extrêmement chargée de sens. Si Homère, si Hésiode n'en parle pas, par contre, Héraclite, l'auteur Héraclite, dit d'elle, je vais le citer, « La Sibylle, à la bouche délirante, profère des mots sans sourire, sans phare et sans parfum. » C'est-à-dire que l'image que la Sibylle, que la prophétesse de l'Antiquité donne aux Grecs, c'est l'image d'une prophétesse qui annonce les malheurs. Elle annonce les malheurs, d'où la formule ou la parole d'Héraclite. Alors, oui, donc elle profère des mots sans sourire, sa bouche est délirante. Il faut préciser que c'est Apollon qui parle par la bouche de la Sibylle, Apollon étant le dieu de la divination, donc la parole de la Sibylle est l'oracle. Les Romains, qui étaient très très attachés à ces figures de prophétesse, vont les répertorier, et c'est en particulier l'auteur Varron, auteur latin du 1er siècle avant notre ère, qui va distinguer, quant à lui, 10 sibylles, 10 prophétesses. Les deux plus anciennes, dit-il, sont orientales, c'est la sibylle de Perse et la sibylle de Libye. Il y en a cinq, dit-il, qui sont grecques. Donc les cinq grecques sont les sibylles d'Érythrée, c'est-à-dire la sibylle de la mer Rouge, sibylle d'Hellespont, Hellespont c'est le détroit des Dardanelles, sibylle de Phrygie, sibylle de Samos, et la plus célèbre des cinq sibylles grecques, c'est la delphique, c'est la sibylle de Delphes, c'est-à-dire la fameuse Pythie. Et enfin, pour avoir le compte, Varron nous dit que 3 sont italiennes. Il y a la sibylle de Cume en Campanie, c'est pas très très loin de Naples, enfin c'est en Campanie, en Italie. Cume est a priori la première colonie grecque d'Italie, donc on voit effectivement l'influence orientale sur les Romains, donc les sibylles viennent d'Orient, qu'elles viennent de Grèce, ou d'ailleurs, et s'installe en Italie. Donc l'une est la sibylle de Tibourg, c'est celle qui va nous intéresser, c'est la sibylle de Tivoli, dont vous avez vu la photo tout à l'heure, et on y reviendra bien sûr. Et enfin, la dernière, qui est beaucoup plus énigmatique, est appelée par Varron la cimérienne, C-I-2-M-E-R-I-E-2-N-E, la cimérienne, tout à fait énigmatique. Quoi qu'il en soit, les sibylles, avec le temps, sont devenues des prophétesses incontournables pour gérer, administrer la vie de la communauté, de la cité. Et c'est ainsi qu'on apprend que les paroles des sibylles étaient enregistrées par écrit, les cités composant comme cela des recueils d'oracles. C'est ce qu'on appelle les livres sibyllins, qui étaient par exemple consultés à Athènes, mais qui seront consultés aussi à Rome, quand il y avait une famine, ou encore pour apaiser la colère des dieux, ou pour connaître l'avenir. Automatiquement, les Romains consultaient les livres sibyllins, qui étaient conservés donc au temple d'Apollon, bien sûr, puisque Apollon est le grand dieu de la divination, et lorsque les Romains s'apprêtaient à lancer une campagne militaire, ils consultaient obligatoirement ces livres sibyllins, ils les récupéraient dans le temple d'Apollon, et bien sûr des devins, ou je devrais dire plutôt des prêtres spécialisés dans la lecture de ces livres sibyllins, les consultaient et apportaient finalement un présage bon, un présage mauvais, enfin voilà à peu près le principe, d'où la catastrophe énorme quand les Romains assistent à l'incendie du temple d'Apollon. Dans cet incendie, les livres sibyllins disparaissent, et là ça ne marche pas comme les reliques des catholiques par la suite, c'est-à-dire que l'incendie détruit tout, disons l'incendie de Chartres qui détruit toute la cathédrale, sauf les reliques. Les reliques ne sont pas touchées par l'incendie. Donc, aussitôt après l'incendie, on retrouve intactes les reliques en question. Non, non, là, les Romains, bien sûr, donc sont tellement attachés à la réalité, on pourrait dire aussi à la crédibilité de ces livres sibyllins, que quand ils voient ce temple brûlé, c'est une catastrophe nationale, les livres sibyllins ont disparu. Et aussitôt les Romains, donc nous sommes du temps de Sylla, un peu précisément, pour situer ça dans le temps, nous sommes du temps de Sylla, et les Romains aussitôt lancent des ambassades à droite, à gauche, des missions, si vous voulez, qui sont des missions diplomatiques, afin de reconstituer les livres sibyllins, et donc avant la fin du 1er siècle avant notre ère, les livres sibyllins avaient été reconstitués à Rome, et donc on pouvait reprendre, bien sûr, la lecture de ces livres pour telle ou telle prédiction, pour tel ou tel présage. Bon, alors, on peut se servir, effectivement, de ce lieu, donc le plafond de la Sixtine, pour découvrir quelques-unes d'entre elles. On voici deux, vous voyez donc comment Michel-Ange les peint, elles sont situées aux écoinçons des voûtes et alternent, se confrontent aussi, on pourrait dire, aux prophètes. Donc ça c'est une particularité qui est extrêmement importante. Dans les hauts lieux du christianisme, et a priori la chapelle Sixtine est un haut lieu du christianisme, on intègre à côté des prophètes, avec les prophètes, on intègre ces prophétesses de l'Antiquité, ces sibylles qui a priori quand même sont païennes. Elles correspondent bien sûr au monde païen. Bon, mais les chrétiens ne pouvaient pas, et vous allez comprendre pourquoi, grâce à la prédiction de la Sibylle de Cumes et donc de la Sibylle de Tibur, donc les chrétiens ne pouvaient pas négliger ces figures. Il fallait qu'elles soient incorporées à la grande tradition religieuse des chrétiens. J'expliquerai pourquoi dans un instant. Donc là, vous en avez deux. Peinte par Michel-Ange, la Sibylle d'Érythrée qui est à gauche, je l'évoquais à l'instant, et selon certains, mais attention, c'est une tradition, hein, c'est une grande tradition, elle aurait vécu au temps d'Orphée. Or, Orphée peut être considéré comme un poète chaman, c'est-à-dire lui aussi donc un devin. Mais enfin, il n'y a pratiquement pas de différence dans l'Antiquité entre le chaman, le devin et le poète. Remarquez à ce propos leurs caractéristiques physiologiques, ils sont aveugles. Homère est aveugle, le devin Tirésias est aveugle. Donc en fait, il n'y a pas de différence fondamentale entre le poète et le devin. Le poète, que fait-il finalement, que ce soit Homère ou Hésiode? Il ne fait que parler, que reprendre les grands mythes, mais les mythes sont fondamentalement les paroles des dieux, les paroles des dieux. Et les prophétesses ou sibylles ne font que rapporter la parole des dieux, et surtout d'Apollon, par leur bouche, effectivement, Apollon parle. Donc il y a un parallèle tout à fait frappant. Donc, que la Sibylle d'Érythrée ait vécu au temps d'Orphée, on comprend pourquoi, en fait. Hein. C'est un temps mythique, c'est un temps extraordinaire, c'est un temps où effectivement il y avait des êtres exceptionnels qui pouvaient comme ça entrer en communication avec les dieux, les esprits, les ancêtres, donc tel effectivement le chaman, pour ça qu'on peut considérer Orphée comme un chaman. Il ne faut jamais oublier à ce propos que la région qui est la Thrace, c'est-à-dire au nord de la Grèce, est une région de chamanisme. Donc Orphée est passé par la Thrace. Hein. La Thrace est effectivement un haut lieu du chamanisme. Hein. Or c'est une région qui est étroitement liée à la vie ou à l'histoire d'Orphée. Les chrétiens vont la situer, cette Sibylle d'Érythrée, au 7e siècle avant notre ère. Pourquoi? Et on voit bien effectivement comment se construisent ces traditions autour des sibylles. Il s'agissait pour les chrétiens de maintenir la priorité de la prophétie biblique. C'est-à-dire effectivement, les prophètes de l'Ancien Testament peuvent être parfaitement datés, et donc a priori, concernant ces prophètes de l'Ancien Testament, il n'y a pas de lieu de douter de leur historicité. Donc les prophètes de l'Ancien Testament sont historiques, je ne dis pas que les sibylles ne le sont pas, mais les prophètes, eux, le sont. Et ainsi, effectivement, les grands prophètes, tels Élie ou encore Élisée ont vécu au 9e siècle avant notre ère. Donc on voit effectivement l'ambition des chrétiens de placer les sibylles après les prophètes, après ce qu'annoncent les prophètes, parce que les sibylles annoncent exactement la même chose que les prophètes. C'est ça qui est un petit peu effectivement qui met le christianisme en porte-à-faux dans une tradition qui est païenne, donc qui est exclusivement païenne, hein, la grande tradition de la sibylle de l'Antiquité. Donc les prédictions sont exactement les mêmes que celles d'Isaïe, par exemple, on annonce la venue d'un enfant qui est né d'une vierge et qui va restaurer l'âge d'or. C'est ce que disaient les Sibylles. Donc, effectivement, c'est un peu gênant pour les chrétiens. Par conséquent, on donne la priorité, donc, ou l'antériorité plutôt, aux prophètes sur les prophétesses. Hein. Mais rien ne dit que les prophètes ou que les prophétesses n'ont pas vécu avant les prophètes, hein, évidemment. Puis, on raconte aussi que la Sibylle d'Érythrée aurait voyagé jusqu'à Cum, où là, on montrait son tombeau. Et là aussi, on comprend pourquoi on raconte cette histoire. Tout ça, c'est de la tradition, hein, pour aller. Enfin, pour dire les choses plus crûment, c'est de la légende, si vous voulez. Il s'agit maintenant de dire que les Romains sont les héritiers de cette tradition. Ils ont récupéré à leur compte cette grande tradition orientale de la Sibylle et qui vient notamment de Grèce. À côté, vous avez la Libyenne, la Sibylle libyenne, et on voit effectivement que les Sibylles sont porteuses d'un imaginaire extrêmement riche. Et alors, justement, si on devait donner de l'importance à une Sibylle, et surtout dans le monde romain. Alors c'est celle-ci, c'est la Sibylle de Cum, la Sibylle de Cum. Alors c'est, oui, la plus connue des Sibylles italiques, la Sibylle de Cum, Cum près de Naples. Elle est étroitement liée à l'implantation de la colonisation ionienne. Ce sont des Grecs d'Ionie qui se sont implantés là, assez tôt finalement. Et c'est d'elle, racontait-on, que provenaient justement les livres sibyllins que j'ai évoqués tout à l'heure, là, qui étaient conservés au temple d'Apollon à Rome. Donc d'elle proviendraient les livres sibyllins, que le dernier roi étrusque, Tarquin le Superbe, avait acheté, livre conservé, donc, comme je l'ai dit, au temple d'Apollon, jusqu'à l'incendie donc, du temple d'Apollon, puis ensuite, effectivement, on les reconstitue, ils seront conservés au Capitole par la suite, l'événement se situe en 83 avant notre ère, hein, donc l'incendie c'est 83 avant notre ère. Bon. Et pour lui donner de l'importance à cette Sibylle de Cum, donc on va citer Virgile, vous avez justement sous la présentation bibliographique, donc les bucoliques de Virgile, hein, donc c'est le petit ouvrage qui vous est proposé, Virgile, bucolique, les Georgiques. Donc là, on va citer carrément le livre 4, c'est le tout début du livre 4 des bucoliques de Virgile, qui met en scène cette Sibylle de Cum, ou plutôt qui rappelle la prédiction de la Sibylle de Cum. Il faut juste, quand on lit ce texte, que je vais lire, qui est très court, hein, c'est juste le tout début, là, livre 4 des bucoliques de Virgile, il faut juste avoir à l'esprit, ce point est extrêmement important, que Virgile publie ses bucoliques en 39 avant notre ère. Hein, c'est fondamental. 39 avant notre ère. Bon. Donc, il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas de Christ, ou du moins, il n'y a pas ce Jésus-Christ qui va prendre l'importance que vous savez. Alors, je lis donc le début. Muse de Sicile, élevons un peu nos chants. Tout le monde, même pas les arbousiers et les humbles tamaris, si nous chantons les forêts, que les forêts soient dignes d'un consul. Pourquoi le consul? Parce que le livre 4 des bucoliques est dédié à un consul qui s'appelle Pollion. Bon, passons. Voici venu le dernier âge de la cubéenne prédiction. Donc c'est la prédiction de la Sibylle de Cum. Voici que recommence le grand ordre des siècles. Déjà revient aussi la Vierge, revient le règne de Saturne. Déjà une nouvelle race descend du haut des cieux. Cet enfant dont la naissance va clore l'âge de fer et ramener l'âge d'or dans le monde entier, protège-le seulement, chaste Lucine, déjà règne ton cher Apollon, c'est sous ton consulat, Pollion, que commencera ce siècle glorieux et que les grands mois prendront leur cours, sous tes auspices les dernières traces de notre crime, s'il en reste encore, pour toujours effacer, affranchiront les terres d'une frayeur perpétuelle, cet enfant aura la vie des dieux, il verra les héros mêlés aux dieux, ils le verront lui-même parmi eux, et il gouvernera l'univers pacifié par les vertus de son père. Voilà le portrait que Virgile fait de l'enfant né de la Vierge. Le texte est publié en 39 avant notre ère. Et ça ne vous a pas échappé, donc, le passage qui dit effectivement les dernières traces de notre crime pour toujours effacer. Comme si cet enfant était finalement une sorte de rédempteur, effaçant une faute ou un péché. C'est du paganisme, hein. C'est du pur paganisme, hein. Mais on comprend effectivement, quand on lit ces textes-là, que les chrétiens ne pouvaient pas négliger une telle prédiction. Il ne faut pas voir les choses comme ça. C'est-à-dire que les sibylles auraient comme ça emprunté leur prophétie aux prophètes de l'Ancien Testament. Certainement pas. Hein, donc il faut bien remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire la culture latine, culture qui est immense et qui, donc à l'époque de Virgile, je ne dis pas qu'elle ignore totalement la culture sémite, mais enfin elle l'ignore en grande partie. Bon, donc il n'y a pas effectivement à imaginer que les prophétesses ont copié les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, et ça ne vous a pas échappé non plus, l'enfant qui est né d'une vierge, sous le consulat de Pollion, bon, etc., aura la vie des dieux, bon, donc il vivra en quelque sorte parmi les dieux, et il gouvernera un univers pacifié par les vertus de son père, dit le texte. Hein. Bon, donc c'est le paradis, quoi, en fait. Virgile dit qu'à la naissance de l'enfant, ben, c'est le paradis qui revient. Voilà, alors bon, donc ainsi ça vous donne une petite idée, mais c'est pas la Sibylle de Cumes qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est la Sibylle de Tibourg. Alors présentons Tibourg. Tibourg, c'est une petite ville qui se situe à une trentaine de kilomètres à l'est de Rome, c'est-à-dire c'est l'actuel Tivoli. Et ça a été l'un des lieux de séjour privilégiés des Romains au début de l'Empire. Il y a des villas, alors la villa la plus célèbre, c'est la villa d'Adrien, bon, c'est un peu après le début de l'Empire, mais donc c'est la plus célèbre, et puis quelle grandeur cette villa d'Adrien. Bon. Et le charme de l'endroit tient à la fraîcheur que l'on y trouve en été. Donc on imagine très bien les Romains d'Antiquité qui fuient Rome pour trouver un peu plus de fraîcheur auprès des cascades, des cours d'eau, donc du cours de l'Agneau, puisque c'est une rivière effectivement qui coule ici, donc avec qui donne beaucoup de fraîcheur. Et puis, alors effectivement, le charme de l'endroit tient aussi à la présence du temple. Alors le temple, vous l'avez là à gauche, c'est le temple dit de la Sibylle. De quelle Sibylle il s'agit? C'est bien sûr la Sibylle de Tibourg. Tibourg, c'est Tivoli, hein, donc c'est la Sibylle de Tibourg, c'est le temple de la Sibylle de Tibourg, qui est là dans un décor absolument magnifique, un décor grandiose, sauvage, et par ailleurs, donc on voit que le temple surplombe la gorge et les cascades de l'Agneau. Il faut juste rappeler une chose, que à l'époque des Romains, plus tard encore au Moyen-Âge, à l'époque de la Renaissance, et encore un peu après, ça ne se présentait pas ce site comme cela. Il faut se rappeler qu'au début du XIXe siècle, le pape Grégoire XVI faisait construire sur cet emplacement la fameuse villa Grégoriana. Et quand on visite Tivoli, il faut visiter la villa d'Adrien, il faut visiter la villa d'Est, il faut visiter la villa Grégoriana. Elle est peut-être du XIXe siècle, mais enfin le lieu est vraiment quand même tout à fait saisissant. Et ce pape, donc du XIXe siècle, Grégoire XVI, fait canaliser en partie l'Agneau, c'est la rivière, qui était responsable d'inondations fréquentes. Ça paraît pas, et ça paraît même assez incroyable, mais effectivement la ville de Tivoli était fréquemment menacée par des inondations qui étaient absolument épouvantables. D'où la décision du pape de canaliser l'Agneau, de protéger la ville, si vous voulez, de Tivoli, et comme cela, après les travaux, le pape, en faisant faire les travaux, crée une nouvelle cascade. C'est une cascade qui est spectaculaire, c'est pas celle-ci, c'est pas celle que vous avez sur la projection à droite, c'est une cascade de 108 mètres de haut, c'est vraiment considérable, que l'on peut admirer depuis les belvédères construits dans le parc de la Villa Grégoriana, c'est-à-dire la villa du pape Grégoire XVI au XIXe siècle. Et à la pique des chutes de l'Agneau se dresse le temple de la Sibylle. Donc là ce sont d'autres chutes que l'on a ici sur la projection. Donc temple de la Sibylle, temple de Vesta aussi on dit, parce qu'il est rond, on le voit un peu, il est rond, il fait écho au temple de Vesta qui était au forum de Rome. On appelle ça aussi la rotonde de Tivoli. Bon, c'est un petit temple de style corinthien qui est entouré de colonnes. et donc de style corinthien, est daté du 1er siècle avant notre ère. Il faut juste préciser que, le temple a été restauré, a été repris par la suite. Alors ainsi, la Sibylle antique de Tibourg, dont la rotonde ici marque l'endroit précis où elle vaticinait, et il faut jamais oublier effectivement que pour qu'une Sibylle vaticine, il lui faut un lieu particulier, il lui faut un lieu qui soit marqué par la présence de l'eau et qui soit souterrain. Donc la grotte, l'antre, le mont souterrain, pensez à la Pythique, à la Sibylle de Delphes par exemple, et l'eau qui coule, tout ça sont des choses qui favorisent l'oracle de la Sibylle. Donc c'est des lieux particuliers, et là nous sommes effectivement dans un lieu qui est idéal pour qu'il vaticine une Sibylle. Donc elle a joui d'une très grande notoriété, on l'a honorée telle une déesse, d'où le temple que vous avez ici. Donc a priori on construit des temples pour des déesses, Vesta est une déesse, bon, et donc ici la Sibylle est presque considérée comme une déesse, et à l'époque d'Auguste, on aurait même retrouvé dans les eaux de l'agneau, donc les eaux de la rivière qui coule à Tivoli, la statue de la Sibylle de Tibourg. Donc forcément c'est quelque chose de miraculeux, d'autant plus que la statue que l'on retrouvait à l'époque d'Auguste dans les eaux de l'agneau portait à la main son livre prophétique, dont les écrits ont été pieusement conservés à Rome. Voilà donc une autre tradition, plutôt une variante de la tradition que j'ai rapportée tout à l'heure. Mais il faut comprendre cette variante, c'est que Auguste tire comme cela donc une propagande de sa propre personne qu'il relie à cette figure qui est extrêmement importante, la Sibylle. Donc à partir de là, tous ces actes, tous ces faits sont justifiés puisque indirectement ils ont été prédits ou prévus par la Sibylle. Alors, ce qui nous amène d'ailleurs à ce document. Pour bien comprendre ce point de la propagande donc menée par Auguste, qui se sert de cette image de la Sibylle pour justifier telle ou telle politique qu'il a pu mener. La statue est célèbre, très très célèbre. Elle mesure plus de 2 mètres de haut. C'est une statue qui a été réalisée vers 14 avant notre ère. Donc, c'est-à-dire au moment du règne d'Auguste. Elle a été retrouvée en 1863, donc c'est une découverte qui est relativement récente, dans un état de conservation tout à fait exceptionnel. Seule la polychromie d'origine a disparu, et on l'a retrouvée à Prima Porta. Prima Porta, c'est sur la Via Flaminia, près de la façade de la villa dite Ad Gallinas Albas. C'est la villa qui appartenait à Livie. Livie, c'est l'épouse d'Auguste. Donc là, on a retrouvé cette statue, d'où le nom qu'on lui donne, l'Auguste de Prima Porta. Donc c'est un portrait d'Auguste, évidemment. Quelques remarques générales. À hauteur de la jambe droite d'Auguste, on voit Eros qui est juché sur un dauphin. Voici le détail qui apparaît, comme ça on le voit de plus près. Eros juché sur un dauphin. Il s'agit clairement d'une allusion aux origines de la gens Iulia. La gens Iulia, c'est la famille qui descend carrément de Vénus. On se rappelle effectivement que Aîné, le héros troyen, est le petit-fils de Vénus, ou je devrais dire plutôt le père d'Aîné, Anchise, et le fils de Vénus, d'où descend effectivement cette gens Iulia qui est ici. Donc effectivement le Eros c'est le fils de Vénus, Cupidon c'est le fils de Vénus. Donc rappelle effectivement que la gens Iulia descend de Vénus. Le dauphin quant à lui rappelle que la déesse Vénus est née des flots de la mer. Mais attention aussi à cette propagande que mène Auguste à travers son imagerie. Le dauphin peut aussi être interprété comme le symbole de la domination d'Octave sur les mers, car avant d'être Auguste, il a été Octave, vous le savez, et à la suite de la victoire navale qu'il avait remportée sur les flottes orientales d'Antoine et de Cléopâtre, la bataille est extrêmement célèbre. ténèbres, c'est Actium, nous sommes en 31 avant notre ère, le dauphin est peut-être là, pour rappeler effectivement cette victoire d'Actium sur Antoine et Cléopâtre. Donc vous voyez effectivement qu'avec simplement le dauphin et l'éros, on a affaire à une statue qui illustre la propagande autour de la personne d'Auguste. Ça ne fait aucun doute. Bon, cette œuvre qui a été réalisée donc on l'a dit en 14 avant notre ère, le représente dans la position de l'impérator. Il est l'impérator. Hein, l'impérator. Hein, à ce propos, n'oubliez jamais que plus tard, les chrétiens représenteront un Christ impérator. Ils récupéreront ce modèle iconographique pour en faire leur Christ. Donc c'est l'impérator qui s'adresse à ses troupes. Auguste a enroulé sur son bras le paladumentum. Le paladumentum, c'est le manteau du général en chef, qui enveloppe une partie de son corps. Bon, ainsi on a une image qui est extrêmement précise, et même on peut dire protocolaire, je pense. Cependant, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est la cuirasse d'Auguste, et surtout, surtout, l'iconographie qu'on peut lire sur la cuirasse. En effet, la scène représentée sur la cuirasse revêt une signification historique et politique extrêmement précise. Pour bien voir ce qui se dessine sur cette cuirasse, voilà le dessin. Voilà le dessin. C'est le dessin de la cuirasse. Je pense que le dessin est plus lisible. Et que voit-on ? Un jeune officier, peut-être Tibère. Donc je le pointe. Donc Tibère est bien sûr ici. Voilà, donc Tibère. Un jeune officier, qui est peut-être Tibère, reçoit de Phraates, Phraates IV, son nom s'affiche d'ailleurs sur la projection, il est roi des Parthes, les enseignes perdues par Crassus et Antoine, car vous savez effectivement qu'à l'époque à laquelle nous sommes, il y a des rivalités terribles entre les Parthes qui sont en Orient, bon, qui sont du côté de l'Iran, mais qui occupent aussi une grande partie de l'Irak et de la Syrie. Donc par exemple, pensez à Palmyre, il y avait des Parthes par exemple. Hein. Bon, alors effectivement, ils sont toujours en rivalité. Donc parfois les Parthes remportaient des victoires. Donc c'est le cas, ils ont remporté des victoires sur Crassus et Antoine. Parfois ce sont les Romains qui remportaient des victoires sur les Parthes. Et c'est le cas de Tibère. Donc Tibère, qui a remporté sa victoire, reçoit du roi des Parthes Phraates IV. Donc Phraates IV est ici. Il reçoit les enseignes perdues par les prédécesseurs de Tibère. Bon. Les deux personnages sont entourés de figures divines. En bas, ce qu'il faut reconnaître, c'est une allégorie ou une personnification de la terre, qui est ici en bas. En haut, vous avez un quadrige qui représente donc le quadrige du soleil, accompagné de l'aurore. Le soleil accompagné de l'aurore reste bien sûr maintenant une figure qui est extrêmement importante et qui vient se situer sur le côté gauche de la représentation, c'est-à-dire ici. Et l'identité de cette figure ne fait aucun doute. Il s'agit bel et bien de la Sibylle de Cumes. Vous avez ici une représentation de la Sibylle de Cumes. Donc la signification de ces figures est étroitement liée à l'oracle rendu par la Sibylle. La Sibylle qui prophétise quoi ? Elle prophétise la venue sur terre d'un nouvel âge d'or annoncé par la restitution des aigles. On vient de lire dans Virgile, dans ses bucoliques, donc l'annonce de cette prédiction, de la cuméenne prédiction, et on voit que Auguste tire profit de cette prédiction. Il la récupère à son compte, alors que Virgile l'avait écrite pour le consul Pollio. Je l'ai dit, mais donc ce sont des prédictions qui sont tellement porteuses, si vous voulez, hein, dans l'imaginaire des hommes. Quand on annonce aux hommes le paradis, la revenue du paradis, la naissance d'un enfant miraculeux qui va ramener le paradis, ça fonctionne toujours. Hein, c'est du marketing. C'est du marketing, c'est de la publicité, si vous voulez. Donc Auguste ne pouvait que récupérer cette histoire à son compte, et c'est pour ça que vous avez cette iconographie donc, qui dit très bien que la Sibylle de Cumes, dans ce cas c'est la Sibylle de Cumes, avait effectivement déjà prédit tout ça, c'est-à-dire que du temps d'Auguste, effectivement, on récupérerait donc ces enseignes qui avaient été perdues par Crassus et Antoine. Voilà, et donc c'est forcément un nouvel âge d'or qui commence. Bon, enfin, on simplifie et on va à l'essentiel et on explique bien que les deux personnages Auguste et la Sibylle, hein, les deux personnages seront ensuite associés à une légende médiévale, c'est-à-dire que l'histoire ne s'arrête pas avec l'Antiquité, loin de là, et la légende médiévale est connue sous le nom de Araceli. Donc Araceli, je vous l'ai mis ici, la légende de l'Araceli, c'est-à-dire l'autel du ciel, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on peut déjà l'illustrer, si vous voulez, à travers cette image qui est très très célèbre, hein, très très célèbre. Donc, puisqu'il s'agit effectivement d'un grand peintre de l'école de Fontainebleau, donc Antoine Caron, et qui peint dans la seconde moitié du XVIe siècle Auguste et la Sibylle de Tibourg. Vous remarquez qu'on joue continuellement entre la Sibylle de Cumes et de Tibourg. En fait, ce qu'il faut voir, c'est Sibylle d'Érythrée, dont on a dit tout à l'heure qu'elle aurait voyagé jusqu'à Cumes, et c'est à Cumes que l'on voyait le tombeau de la Sibylle d'Érythrée, vous le disiez tout à l'heure, et finalement la prédiction de la Sibylle de Cumes est la même que celle de la Sibylle de Tibourg. On va le voir à travers cette histoire-là. Donc on confond finalement ces Sibylles, ou plutôt on leur donne finalement plus de cohésion et de cohérence en signalant que ce qu'elles ont annoncé, c'est exactement le même message. C'est-à-dire viendra, naîtra un enfant miraculeux, né d'une vierge, qui annonce l'âge d'or, etc. C'est pour ça qu'on peut jouer comme ça, hein, Sibylle de Cumes, Sibylle de Tibourg et Sibylle d'Érythrée. Mais enfin bon, là, le tableau s'appelle bien Auguste et la Sibylle de Tibourg. Mais c'est quand même tout à fait révélateur. Alors, qu'est-ce que l'on a ici, sur ce tableau? C'est un spectacle. Antoine Caron a vu le spectacle qui a été organisé à Paris du temps de Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, qui assiste au spectacle, elle est là. Elle est pas compliquée. La figure qui est vraiment mais au milieu du tableau, hein, mais certes à l'arrière-plan, mais plus grande que les autres quand même, hein, sur ce plan-là, la figure qui est ici, c'est Catherine de Médicis. C'est elle qui a fait organiser à Paris ce spectacle, qu'a vu Caron, et Caron, donc, qui est un peintre de cour, doit donc restituer le spectacle en question. On remarque que la plupart des spectateurs dirigent leur attention vers l'estrade où les acteurs costumés en romain jouent une pièce de théâtre. Du même coup, on comprend mieux pourquoi la reine, donc Catherine de Médicis, est à l'arrière-plan. C'est que au premier plan se joue le spectacle. Quel est ce spectacle? Le spectacle s'intitule extrêmement précisément Mystère de l'incarnation et nativité de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. On est comme dans une tradition médiévale où se jouait sur les parvis des cathédrales des mystères, exactement le même principe, seulement le mystère ici s'appelle Mystère de l'incarnation et nativité de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Et cependant, le tableau s'intitule Auguste et la Sibylle de Tibourg. Donc il faut bien comprendre pourquoi. Donc plus précisément, la scène que l'on a sous les yeux, là, au premier plan, c'est la scène décisive de ce mystère. Comprenez bien, qu'est-ce que l'on voit? On voit ici l'empereur romain Auguste, qui est habillé d'un manteau pourpre. Il est couronné de laurier. On peut se rapprocher pour bien voir la figure d'Auguste. Hein. Voilà, là, vous le voyez mieux. Bon. Auguste, donc, est habillé d'un manteau pourpre, il est couronné de laurier, et il est assisté par des soldats, bon, enfin, laissons ce point de côté, il s'agenouille, ce point est beaucoup plus important, à la rencontre de la Sibylle de Tibourg, qui se tient devant lui, debout, bien sûr, la Sibylle, et Auguste lui a demandé quelle serait la destinée de son empire. C'est le rôle des Sibylles, hein. Donc la prédiction, annoncer les choses. Bon, donc alors effectivement, Auguste lui demande quelle serait la destinée de son empire. La prophétesse lui montre alors le ciel. Et qu'est-ce que l'on voit dans le ciel? On voit tout bêtement la Vierge à l'enfant qui apparaît dans un nimbe. À vous de voir. Ou bien c'est donc la Vierge et l'enfant annoncés par Virgile, par le biais de la Sibylle de Cumes, dans ses bucoliques, mais on n'oubliera pas que le texte date de 39 avant notre ère, ou bien c'est la Vierge et l'enfant. C'est la Vierge et l'enfant des chrétiens, des catholiques dans ce cas. Enfin, des catholiques dans ce cas. Voilà. Alors, donc, effectivement, alors je reprends un peu de recul. Donc, vous avez aussi vu, tant qu'à faire, donc la Catherine de Médicis. Enfin, vous la voyez mieux là, sur l'arrondissement, Catherine de Médicis, un peu sur la gauche. Bon. Donc je reviens effectivement sur l'ensemble. Donc dans ce mystère, le Christ est annoncé aux païens, c'est-à-dire Auguste, le païen Auguste, comme successeur de l'Empire romain et maître du monde. Et ça correspond après tout à la prophétie de la Sibylle de Cumes, telle que Virgile l'a rapportée. Donc ainsi effectivement, on annonce aux païens qu'il y aura quelqu'un d'autre qui sera supérieur à lui, donc que quelqu'un va succéder à l'Empire romain qui sera maître du monde, ce qu'Auguste accepte dans le mystère qui se joue ici sous nos yeux, dans le spectacle qui est catholique bien sûr, donc Auguste est censé accepter la parole de la Sibylle de Tigour. Hein. Ou de Cumes, comme vous voulez. Et donc là, on se conforme à l'interprétation de l'événement donnée par Orose, Orose, O-R-O-S-E, dans son Histoire contre les païens, c'est une publication de 415 de notre ère, en 415 de notre ère déjà, les auteurs chrétiens, les historiens chrétiens, récupéraient à leur compte ces grandes traditions de l'Antiquité païenne, et expliquaient que Auguste aurait accepté la prophétie de la Sibylle, c'est-à-dire aurait accepté que quelqu'un lui succéderait, et serait maître du monde. Alors, je précise enfin que ce mystère a été représenté pour la première fois à Rouen en 1474, pour la première fois, donc c'est un vieux mystère, hein, c'est un mystère médiéval, il n'y a pas de doute, puis de nouveau joué à Paris en 1580, c'est pour ça qu'on peut dater le tableau de Caron, de 1580, et si on joue ou si on rejoue ce mystère en 1580 à Paris devant Catherine de Médicis, c'est là aussi à des fins de propagande politique et religieuse. Hein, nous sommes en plein dans les guerres de religion. Hein, donc il faut effectivement donner de l'importance à cette Catherine de Médicis, à la politique qu'elle mène, et à ses prédictions, etc. Quoi qu'il en soit, son mélange d'antiquité et de dévotion chrétienne, je parle du mystère, répondait parfaitement au goût de l'époque. Son contenu religieux contentait le parti catholique, la cour et la capitale, c'est pour ça qu'on l'a joué. Bon, alors, j'y reviendrai tout à l'heure, sur la légende de l'Araceli, avec un tableau qui est tout à fait important. Alors, ce que je vous propose, c'est maintenant une petite iconographie qui est tout à fait plaisante et agréable, qui montre à quel point ce lieu, c'est-à-dire Tibourg, et la rotonde de Tivoli, la rotonde de la Sibylle, donc le temple de la Sibylle, enfin Tibourg a vraiment marqué, et marque toujours, bien sûr, les esprits et l'imaginaire. On va considérer dans cette partie l'influence que joue dans l'histoire du paysage ce petit temple rond de la Sibylle, ses ruines, son environnement. Alors, à la Renaissance, le site attire déjà des artistes et des architectes tels que Raphaël et Palladio. Raphaël, Palladio, ils sont allés et donc ont été subjugués par ceci. Puis, c'est de l'Europe entière que l'on afflue vers Tivoli. Tivoli devient par conséquent une école du paysage. Hein. Et je pourrais citer justement la référence biographique que vous aviez tout à l'heure, c'est sur la première diapositive, qui s'intitule Tivoli, variation sur un paysage au XVIIIe siècle, qui a été publié il n'y a pas très longtemps. Je cite un passage, le génie propre du lieu en faisait un motif d'étude tout désigné. Donc, les peintres convergent vers Tivoli, ils viennent de toute l'Europe, à la Renaissance, parce qu'on considère que c'est un motif d'étude tout désigné. Hein. Et remarquez dans la citation, on parle du génie, le génie propre au lieu. Hein. Bon. Donc, il y a quelque chose à Tivoli qui dépasse l'entendement, finalement, hein, qui dépasse ce que l'on voit. Là-dessus, des tendances se dessinent. C'est une école du paysage, Tivoli, et des tendances se dessinent. Tantôt, c'est le réalisme qui domine, comme l'atteste par exemple ce dessin que vous avez sous les yeux d'un flamand qui s'appelle Paul Bril. Donc, c'est un peintre flamand qui fait le dessin ici donc de Tivoli. Enfin, on voit très bien effectivement les rochers de Tivoli et la rotonde qui est ruinée d'ailleurs à ce propos. Hein. Donc aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est un édifice qui a été remonté en partie, comme d'ailleurs le temple de Vesta sur le Forum à Rome. Quoi qu'il en soit, donc là, c'est plutôt une tendance réaliste qui donne à voir un monde habité sur le versant de la montagne que surmontent les ruines du temple. Donc on le voit effectivement, il y a là des petites maisons, il y a là des paysans qui vaquent à leurs occupations, mais le lieu devait être véritablement comme ça à l'époque, c'est-à-dire à la fin du XVIe siècle, enfin à la Renaissance. On pourrait aussi présenter la version de Claude Lorrain, dit le Lorrain, paysage avec vue imaginaire de Tivoli. Donc là, c'est moins réaliste. Autre tendance par conséquent qui se dessine, c'est moins réaliste, c'est plus imaginaire, c'est plus fantastique. Et puis, il y a bien sûr avec ce peintre l'incontournable soleil couchant qui donne une grandeur à ce paysage. Mais la grandeur des paysages de Claude Gelée, dit le Lorrain, est évocatrice de la destinée extraordinaire qui attend tel ou tel personnage de l'histoire sacrée ou de l'histoire antique, que sais-je. Voilà, alors bon, et ainsi de suite. Parfois, c'est carrément la fantaisie qui l'emporte, hein, parce que là, c'est imaginaire, mais enfin, ça reste quand même tout à fait crédible. Mais parfois, c'est la fantaisie qui l'emporte jusqu'à situer le petit temple en bord de mer qu'il a fait, c'est Bruegel l'Ancien. Bon, je n'ai pas retrouvé son dessin, mais vous le retrouverez par vous-même. Donc, on a comme ça un dessin de Bruegel l'Ancien. Bruegel l'Ancien qui a voyagé 2 ans en Italie, hein, et on sait qu'il est passé par Tivoli, mais alors, quand il fait le dessin de la rotonde, il la situe en bord de mer. Hein. Et donc parfois, ce sont carrément des marines, donc des paysages qui sont des marines, donc avec la fameuse rotonde de Tivoli. Au XVIIIe siècle, le goût pour les ruines qu'incarne ce grand peintre Hubert Robert, hein, donc on sait effectivement qu'il y a un courant ruiniste. On l'appelle comme ça, d'ailleurs, hein, dans la peinture. Il y a un courant ruiniste. Au XVIIIe siècle, il y a les Vedutés, donc les Vedutés que peignent les peintres vénitiens de leur côté, et il y a le courant ruiniste. Donc les Vedutés sont représentés par Canaletto, par exemple, ou son neveu Bellotto, et puis le courant ruiniste est représenté au XVIIIe siècle par Hubert Robert. Bon. Alors ce goût est partagé par d'innombrables artistes. Le thème est aussi traité de façon dramatique, il peut être traité de façon magique, mais ça on l'a déjà vu avec la composition de Claude Joly dit le Lorrain. Ça peut être aussi traité tel une pastorale, et au XVIIIe siècle, par exemple, c'est François Boucher qui laisse de Tivoli, donc une sorte, effectivement, qui fait de Tivoli une sorte de pastorale. Hein, Tivoli n'est plus qu'un prétexte, maintenant, à présenter, effectivement, une composition qui est dans le goût du moment. Au XVIIIe siècle, on aime beaucoup les pastorales, et remarquez le titre du tableau, Vue de Tivoli avec le temple de Vesta. C'est pas le temple de Vesta, c'est le temple de la Sibylle, mais vous voyez les confusions, les amalgames qui s'opèrent. Bon, c'est pas bien grave d'ailleurs, hein, ça revient pratiquement au même finalement. Hein. Voilà. Ou alors on a la vision romantique, et puis il y a aussi la vision de Joseph Vernet, qui nous situe toujours au XVIIIe siècle. Voici sa vision à Joseph Vernet, donc un très très grand peintre paysagiste, qui va quant à lui reproduire à satiété les célèbres cascades de l'Agneau. Alors nous sommes avant, bien sûr, les travaux de Grégoire XVI, donc la fameuse cascade qui a 108 mètres de haut aujourd'hui, mais il y avait des cascades, hein, des cascades que l'on appelait d'ailleurs les cascatelles de Tivoli, hein, les cascatelles de Tivoli, qui ont fasciné Claude-Joseph Vernet, comme le montre ce tableau que vous avez ici sous les yeux. On voit aussi un autre qui montre effectivement que ces cascatelles de Tivoli fascinent les peintres, et en particulier celui-ci, Joseph Vernet. Mais si on s'attache à ces cascatelles, dans ce cas, le tableau le plus réussi, le tableau le plus incroyable, le tableau le plus fascinant, hein, incontestablement, c'est celui qui a été laissé par Fragonard. Hein, donc les cascatelles de Fragonard, ça c'est vraiment le chef-d'œuvre absolu, hein, de toute toute la série, c'est le chef-d'œuvre absolu, parce que, bon, ben voilà, Fragonard a un métier, une technique, une touche, qui anticipe très largement sur les impressionnistes. Et puis, il faut penser, hein, donc ces peintres ont fait le déplacement, hein, ils ont fait le déplacement à Tivoli, donc pour eux, c'est un changement radical. Quand vous venez du nord de l'Europe, quand vous venez de Paris, bon, que vous arrivez ici à Rome, la lumière n'est pas du tout la même, donc c'est un enchantement, et c'est vrai que ces peintres sont fascinés par ce qu'ils voient. Donc ils observent, ils retiennent, ils essayent de traduire les effets atmosphériques, et là c'est d'une réussite tout à fait incroyable. Il ne faut jamais oublier qui est Fragonard, hein. Bon, élève de Boucher soit, mais un élève qui va pousser très très loin sa technique picturale jusqu'à anticiper carrément sur des techniques impressionnistes. Hein. Donc là, la touche de Fragonard était d'une virtuosité incroyable. Fragonard travaillait extrêmement vite. Hein. C'est Diderot qui parlait à propos de la touche de Fragonard du fa presto, le fa presto désinvolte. Et d'ailleurs, donc a priori, il va en Italie pour apprendre des Italiens le fa presto, hein, la technique du fa presto, le fait vite. Hein, donc c'est-à-dire, on a un tableau à peindre et donc on essaye de travailler le plus vite possible. Hein, donc saisir là sur le moment, sur le vif, donc des effets atmosphériques. Hein, cette grande tradition du fa presto, elle remonte à Giorgione. Hein, c'est Giorgione le premier, hein, qui fait ça quand il peint la tempête, là, qui est à l'Accademia. À Venise. C'est Vasari qui disait de Giorgione qu'il peignait directement son passé par des dessins préparatoires. Giorgione aurait peint directement sur la toile sans passer par des dessins préparatoires. Il est le premier à faire ça, Giorgione, pour travailler plus vite. C'est le début de la tradition du fa presto. Et Fragonard, effectivement, travaillera comme ça. C'est ce qui rend incomparable ces tableaux à Fragonard. Sur un plan technique, c'est vraiment merveilleux, hein. Si on s'approche encore un peu, vous voyez donc les différences de couleurs. Hein, et puis donc on sent qu'il y a donc une pâte qui est vivante, qui fait vibrer ce que l'on voit. Il y a des effets donc lumineux, des effets d'éclairage qui sont sensationnels, des reflets sur les cascatelles par exemple. Bon, d'autres détails qui sont magnifiques, magnifiques, tout à fait magnifiques. Fragonard, lui, il a séjourné à Tivoli durant l'été 1760. Hein, c'est pour ça qu'on peut dire effectivement le tableau date de cette époque, 1761-62. On sait que Fragonard dessinait dans la campagne, parfois à côté de son ami. L'ami de Fragonard, c'est le peintre Hubert Robert, que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, il peignait côte à côte ces deux peintres. C'est un peu l'histoire de Poussin et de Claude Gelée d'Île-aux-Lorrain, qui au XVIIe siècle vivaient à Rome tous les deux. Ils étaient voisins et parfois, effectivement, ils travaillaient ensemble. Hein. Mais là, c'est vraiment donc confirmé. Donc, les deux peintres n'étaient pas rivaux, ils étaient amis. Ils peignaient côte à côte, Fragonard d'un côté, Hubert Robert de l'autre. D'ailleurs, à ce propos, voici la version d'Hubert Robert. Je vous montre la version d'Hubert Robert. Là, vous avez le tableau de Fragonard. Vous les imaginez tous les deux peindre côte à côte. Voici la version d'Hubert Robert. Elle est bien, mais voilà, ça ne vaut pas les cascatelles de Fragonard. Hein. Mais c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. Il ne faut pas être non plus difficile, mais le problème, voilà, c'est que quand on est confronté à un technicien comme Fragonard, donc c'est incomparable, Fragonard. La technique de Fragonard, tout à fait incomparable. Donc ça, c'est la version d'Hubert Robert, ça, c'est la version de Fragonard. Voilà, et donc l'attribution de cette vue dorée de soleil à ce peintre illustre les liens artistiques d'amitié qui unissaient les deux artistes, évidemment. Bon, alors on continue pour montrer à quel point Tivoli est un lieu vraiment à part, un lieu qui marque les esprits, qui marque l'imaginaire. Et au siècle suivant, c'est-à-dire au XIXe siècle, Tivoli inspire William Turner, donc le grand peintre anglais, Joseph Mallord William Turner. En 1817, peint entre autres cette vue de Tivoli, mais il y en a d'autres, hein, pour en trouver d'autres, chez William Turner, des esquisses, des aquarelles aux subtiles couleurs, comme celles que je vous présente ici. Et puis, alors, à partir du XIXe siècle, Voilà que des amateurs de jardins font maintenant ériger sur le sol anglais, d'où le lien avec Turner, qui a diffusé effectivement par ses aquarelles, ses esquisses et quelques peintures ce lieu. Donc on voit ériger sur le sol anglais la copie du petit temple rond à colonnade corinthienne de la Sibylle. Et ça devient une mode, mais une mode européenne. C'est parti d'Angleterre et ça a très très vite, donc ça se retrouve très très vite en France. Donc la vogue de tels pastiches se répand en Europe et en France. Pour la France, on va citer le parc des Buttes-Chaumont à Paris par exemple, ou alors la Garenne Le Mot près de Nantes, et si on veut citer l'Europe, alors partons donc en Pologne, le temple par exemple Palawi, le temple Palawi qui est un temple en fait qui n'est pas du tout un temple, hein, c'est un parc, c'est une architecture décorative de parc, mais cette construction fait écho bien sûr directement à la rotonde de Tivoli. Et la popularité du thème à ce propos a même été qualifiée de Tivoli-mania. Au XIXe siècle, on parle d'une Tivoli-mania. Donc Tivoli demeure un lieu de mémoire artistique, un lieu qui a toujours fasciné. Et alors quand on le visite aujourd'hui, Tivoli, bon, c'est vraiment extraordinaire, hein. Il faut faire les trois villas en fait, hein. Il faut faire la villa d'Adrien si on veut rester donc dans la chronologie, puis on visite la villa d'Est, bien sûr, la villa d'Est, la villa d'Hippolyte de d'Est, et puis on termine par la villa Grégoriana le soir, et puis alors on imagine comme le Lorrain des soleils couchants sur la cascade de Tivoli. Enfin bon, c'est vraiment, c'est curieux, hein. C'est un lieu curieux, hein. C'est vraiment un lieu qui a toujours fasciné depuis l'Antiquité. Bon, le lieu idéal où vaticine effectivement une Sibylle, donc c'est la Sibylle de Tibourg. Bon, enfin voilà, donc tout ça c'était pour dire à quel point ce lieu est un lieu magique. Deux mots sur cette villa, hein. Je vais juste vous présenter ce que l'on peut trouver dans cette villa qui se rapporte directement à la Sibylle de Tibourg. Donc je rappelle simplement qui est ce personnage exceptionnel, Hippolyte de d'Este. Donc c'est un prince humaniste, sans doute un des derniers d'ailleurs, imbu de culture classique et païenne. Et païenne, hein, il faut le dire comme ça. Pourquoi il faut donc dire carrément païenne? Parce que ce même Hippolyte est très vite dénoncé par le pape Pie V qui menace de l'excommunier. Nous sommes à une époque qui n'est plus du tout celle du XVe siècle, la renaissance du XVe siècle, la renaissance du Quattrocento, ou encore le début du XVIe siècle, hein, l'époque de Raphaël par exemple. Non, la réforme est passée, la réforme de Luther est passée, nous sommes en plein pendant le Concile de Trente, le Concile de la Contre-Réforme, et là, donc l'Église n'a pas le choix, l'Église doit changer sa position à l'égard de cette culture classique. Autant quelque temps plus tôt, un Sixte IV della Rovere, celui qui a commandé la chapelle Sixtine, autorisait effectivement des rapprochements avec la culture antique, parce qu'il était un grand prince humaniste. Donc Sixte IV della Rovere était un grand prince humaniste. Autant les appartements des Borgia au Vatican jouent constamment sur des rapprochements entre la culture chrétienne et la culture de l'Antiquité, païenne, mais c'est les Borgia, on pense à Alexandre VI Borgia, mais ce sont des gens très cultivés, hein, ils sont imbus de culture classique. Bon, autant à partir de la Réforme, c'est fini. De la réforme, l'Église doit changer sa position, et puis il ne faut jamais oublier effectivement que c'est le moment précis où naissent de nouveaux ordres, à commencer par la compagnie de l'ordre de Jésus, donc les jésuites, et effectivement avec l'ordre de la compagnie de Jésus, l'Église doit se plier effectivement à un nouvel état d'esprit. Donc il ne faut pas s'étonner si effectivement Pie V a menacé d'excommunier ce prince humaniste. À partir de 1566 et durant tout le pontificat de Pie V mourra en 1572, Hippolyte se retire de la vie publique et il sera gouverneur de Tivoli. Il a eu des charges, hein, des charges très très importantes. Il avait aussi des charges religieuse, hein. Donc il a été un cardinal, hein. Il a eu le chapeau cardinaliste quand même, hein. Mais voilà, donc menacé d'être excommunié par Pie V. Donc il fait construire ce lieu à Tivoli, sera le gouverneur de Tivoli, se retire ici. Il fait construire une villa, on la voit ici, et des jardins d'où coule constamment l'eau, parce que l'eau a été acheminée par aqueduc de la rivière voisine, c'est-à-dire de l'Agneau. Donc ainsi, effectivement, sur la pente du jardin, les cascades ne s'arrêtent jamais. Alors, on peut les arrêter, bien sûr, mais a priori, il n'y a pas lieu de les arrêter, et donc on voit effectivement, et on entend surtout toujours l'eau couler ici, hein. Donc c'est une petite réplique, ce lieu, en fait, du lieu où vaticinait la Sibylle de Tibourg. Donc il ne faut pas s'étonner si, quand on se balade dans ce jardin, il y a quantité de fontaines qui proposent des iconographies très riches. Mais il y en a une fontaine qui, comme par hasard, est entièrement dédiée à la Sibylle de Tibourg. Et qu'est-ce que l'on voit sur cette fontaine? Je vous montre ça de plus près. Enfin, l'iconographie, je parle de l'iconographie. La fontaine de la Sibylle de Tibourg. On voit la Vierge et l'enfant, c'est-à-dire la prédiction de la Sibylle de Cume, mais qui est donnée en fait à la Sibylle de Tibourg. Voilà. Et c'est une Vierge à l'enfant. Seulement, je vous laisse libre d'interpréter, c'est-à-dire savoir si cette Vierge est la Vierge Marie, l'enfant Jésus, ou si ça se rapporte à la prophétie de la Sibylle de Cume. Et quand on pénètre à l'intérieur de la villa, donc il y a tout un décor peint, donc de grandes salles comme ça qui sont peintes avec des effets de trompe-l'œil qui sont très beaux. Et il y a dans cette grande salle une fontaine, une petite fontaine. Au fond, là, ici, on voit une vasque qui est remplie par un petit jet d'eau qui est au-dessus. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir le paysage qui se dessine, a été réalisé en stuc peint. Au-dessus de la vasque, on se rapproche un peu plus. Voilà, donc vous retrouvez la vasque qui est flanquée ici de piliers et d'atlantes. La fontaine intérieure est bien mise en valeur. Et si on se rapproche encore un peu, remarquez le décor au fond de la niche, ou de la fontaine, ou de la vasque. Donc on retrouve bien, je crois qu'on le voit un petit peu, la rotonde de Tivoli, la rotonde de la Sibylle de Tibourg. Et si on regarde de plus près l'iconographie peinte sur les murs, il y a un tableau qui est tout à fait évocateur. Je vous le montre. Bon, je ne l'ai pas très bien photographié, mais enfin bon, il est suffisamment visible, je crois. Donc, un tableau tout à fait évocateur, c'est une fresque en fait, et qui va montrer ici, agenouillé, ici, Auguste, qui est agenouillé parce que, rappelez-vous, on racontait à l'époque d'Auguste qu'on avait retrouvé dans les eaux de l'Agneau une statue de la Sibylle de Tibourg avec ses livres sibyllins. Mais comme nous sommes dans la villa d'Hippolyte de Deste, la Sibylle n'est pas représentée avec ses livres sibyllins, mais vous le voyez sur ma fresque, elle est représentée avec l'enfant. Mais ça revient au même, puisque la prophétie de la Sibylle, c'est la naissance d'un enfant né d'une vierge. Vous avez ici effectivement l'adoration, pourrait-on dire, d'Auguste qui adore la Sibylle de Tibourg, ou la vision de la Sibylle de Tibourg, mais ça revient au même, finalement. Donc, c'est-à-dire la Vierge et l'enfant né de la Vierge, qui restaurera l'âge d'or, donc la revenue du paradis. Voilà. Donc, et là, effectivement, on rejoint le tableau de Caron. À la différence près que ça n'est pas le mystère médiéval que j'évoquais tout à l'heure, qui est peint ici par le peintre au service de Hippolyte de Deste, mais c'est plus simplement, finalement, Auguste agenouillé devant la Sibylle, ou la statue de la Sibylle, ou la statue de la vision de la Sibylle en question. Voilà, alors donc, ça donne effectivement beaucoup d'importance à cette Sibylle, et vous le constatez, vous l'aurez constaté, la Sibylle de Tibourg occupe une position très particulière dans le christianisme. Les chrétiens, effectivement, l'ont récupérée, ils ne pouvaient pas faire autrement, bien sûr, parce que ce que dit la Sibylle est exactement ce que disaient les prophètes de l'Ancien Testament. On pense à Isaïe en particulier, mais pas seulement à Isaïe. Alors bon, Donc, reprenons un petit peu tout ça et voyons cet aspect-là, la Sibylle de Tibourg dans le christianisme, et à partir d'un tableau que je vais vous montrer qui est tout à fait étonnant. Alors, selon l'usage attesté en Grèce dès le IIe siècle avant notre ère, on accole à cette Sibylle, la Sibylle qui nous intéresse, l'épiclèse de Tibourtine, hein, comme par exemple la Cuméenne, si vous voulez. Donc là, on va parler de la Tibourtine. Ça, c'est une pratique que les Grecs avaient déjà de leur temps, donc épiclèse ou épithète. Donc on va effectivement accoler toujours une épithète à la Sibylle en question. Donc là, nous parlons de la Tibourtine. Dans l'Antiquité classique, on se référait à l'appartenance géographique des Sibylles, disséminées dans les sanctuaires du dieu Apollon, dont elles étaient, comme on le sait, comme on l'a dit, les prêtresses. Elles sont censées parler pour Apollon, ou Apollon, mais dans leur bouche, ses propres paroles. Hein. Et donc on parlera de la Delphica. Par exemple, hein, la Delphica, la Cuméenne, la Tibourtine, la Libica, bon, etc., etc. Et c'est la grande Sibylle ionienne d'Érythrée, donc l'Érythréenne, que l'on peut illustrer grâce à Michel-Ange, qui n'a pas manqué d'en faire son portrait sur le plafond de la Sixtine. Donc c'est la grande Sibylle ionienne, c'est-à-dire l'Érythréenne. On voit bien que c'est la localisation qui compte pour forger l'épiclèse, finalement, qui est adoptée par les chrétiens au 5e siècle de notre ère comme vraie prophétesse. Donc ça commence comme ça. Voilà, ça commence comme ça. C'est-à-dire, hein, il faut toujours rappeler, hein, la tradition des Sibylles est une tradition païenne. Ça appartient au paganisme. Il n'y a pas à imaginer que les païens ont copié sur la Bible, copié sur les prophètes de l'Ancien Testament. Non, non. Donc la question des prophètes, des devins ou devineresses, c'est une question qui intéresse toutes les civilisations, partout où vous avez donc des prêtres devins, partout où vous avez des prédictions qui sont faites. On parle bien de deux traditions différentes, hein, une tradition biblique et une tradition païenne. Et au 5e siècle de notre ère, les chrétiens présentent l'Érythréenne comme la vraie prophétesse. Donc, c'est elle qui entre dans l'Église médiévale au même titre que les prophètes bibliques. Elle est mise sur le même pied d'égalité que les prophètes bibliques, 5e siècle de notre ère. Elle figure parmi eux, et ceci très tôt, hein, donc on n'a pas attendu Michel-Ange, dans les enluminures, dans les livres d'heures du Moyen-Âge, on peut trouver effectivement là, et même les Sibylles, aux côtés des prophètes. Bon, cependant, notre Tibourtine rejoint bientôt sa sœur, l'Érythréenne. La Tibourtine rejoint l'Érythréenne, et notamment dans l'art chrétien, si bien que sa popularité gagne peu à peu l'Europe entière, donc là je parle de la Tibourtine, grâce à la diffusion de la légende que j'évoquais tout à l'heure, souvenez-vous, la légende de la Rachéli, sur laquelle je vais revenir. Donc, mais pas seulement grâce à cette légende, également grâce aux albums d'images que fait circuler le clergé dans les ateliers d'artistes. Donc on voit effectivement la diffusion de l'imagerie de la Tibourtine, pas seulement de l'Érythréenne, mais aussi de la Tibourtine. Et donc la légende de la Rachéli, qui se rattache exclusivement à la Tibourtine, va effectivement se diffuser considérablement. Donc ainsi illustré, donc maintenant qu'on a au Moyen-Âge une représentation de la Tibourtine, une diffusion, le thème de la Rachéli, rappelez-vous, c'est la légende de l'autel du ciel, va engendrer un foisonnement de création sur tous les supports possibles. Donc on va la retrouver partout, cette Tibourtine, dans les peintures, les enluminures, les sculptures, les tapisseries, les vitraux. Il s'épanouit, ce thème, pleinement dans la peinture flamande du 15e siècle, où on peut retrouver la Tibourtine. Et pas seulement, hein, je pourrais aussi présenter en Italie des ensembles peints. On pense par exemple à celui du Pérugin, au Collegio del Cambio à Pérouse, où vous avez effectivement une lunette, une vaste fresque qui est peinte, où on voit côte à côte les prophètes de l'Ancien Testament et les prophétesses de l'Antiquité, les Sibylles. Et donc nous sommes à la fin du 15e, début 16e dans ce cas. Pardon. Donc on va se poser maintenant la question, après avoir évoqué la diffusion incroyable et le succès incroyable que connaît ce thème de la Rachelie et l'illustration donc qui va avec, que dit précisément cette légende? Alors cette légende raconte l'histoire de l'entrevue entre l'empereur Auguste et la Tiburtine, au cours de laquelle entrevue, la Tiburtine révèle l'avènement du christianisme au maître de Rome, c'est-à-dire l'empereur Auguste, et l'histoire nous dit, l'Aracheli, la légende de l'autel du ciel nous dit, que aussitôt Auguste embrasse la foi nouvelle. Auguste devient chrétien. C'est ce que prétend la légende. Hein, parce que dans la réalité, bon. On est loin du compte, hein. On est très très loin du compte. Alors je vous avais promis un tableau qui illustre cela. Alors c'est un tableau qui est vraiment fascinant. C'est pour ça que je n'ai pas voulu présenter les autres images. Vous les trouverez par vous-même, hein. Les tapisseries, les sculptures, les enluminures et les vitraux qui représentent au Moyen-Âge, au XVe siècle, donc la Sibylle de Tibourg. Moi ce que je voulais c'était qu'on se concentre sur ce tableau-là, là, qui est vraiment tout à fait extraordinaire. Qui illustre bien donc ce que sont devenues ces Sibylles, et surtout la Sibylle de Tibourg, la Tiburtine, dans ce qu'elle est devenue effectivement au Moyen-Âge. Alors voilà, donc là vous avez un tableau d'un artiste qui n'est pas connu, qu'on appelle le maître de la vision d'Auguste. Il est donc anonyme. On pourra en dire deux, trois mots quand même, parce que les historiens d'art ont bien travaillé sur cette peinture et arrivent à retrouver un petit peu la manière de peindre de ce maître ailleurs. Bon, mais enfin, il est anonyme, le maître de la vision d'Auguste. Hein. Donc il a ce tableau qui s'intitule L'Empereur Auguste et la prophétie de la Sibylle Tiburtine. Bon. Le tableau date de 1390 et se trouve à Stuttgart. Alors bon, le peintre est anonyme, mais par exemple, les historiens d'art savent dire que ce peintre est originaire de Venise, là pas mal, qu'il a vécu à Ferrare, Ferrare étant célèbre en tant que foyer de culture autour de la famille d'Este, les Estes de Ferrare, famille à laquelle appartient Hippolyte. Hippolyte II d'Est. Bon, passons. Sa peinture, donc la peinture que vous avez ici, à ce maître anonyme, enfin dont on sait qu'il est originaire de Venise, qu'il a vécu à Ferrare, le lieu de la famille des Estes, sa peinture aurait été réalisée en 1390, or cette année a été marquée par le jubilé. Or un jubilé c'est rare, hein. Dans l'Église un jubilé c'est quand même relativement rare. Bon, alors donc c'était l'année d'un jubilé. Est-ce qu'il faut faire le rapprochement entre le jubilé et la peinture que vous avez sous les yeux? Sans doute que oui, parce que tout simplement tout est histoire de propagande. Hein. Quand on a une image sous les yeux, donc elle se relie à une propagande. Bon. Quoi qu'il en soit, peu de temps auparavant, la papauté avait regagné Rome après de longues années passées en Avignon. L'époque est la plus difficile qu'a passé l'Église catholique romaine. On sait effectivement que le moment est terrible. Donc la papauté s'exile de Rome en Avignon et là bascule dans des fastes qui sont effectivement tout à fait qui sont extrêmement contestés. Donc il y a des appels à la réforme, réformer cette Église qui bascule dans le faste. Et vous savez, donc quand la papauté regagne Rome, cette papauté ou ce lieu est extrêmement disputé. Donc il y aura à un moment donné plusieurs papes qui seront élus en même temps, le pape de Rome, le pape d'Avignon, et puis un autre pape qui a été donc choisi au cours d'un concile. C'est ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, et le grand schisme d'Occident c'est la plus grave de toutes les crises qu'a connu l'Église catholique romaine. Hein. Donc nous sommes à la fin du 14e siècle, début 15e, et quand l'Église revient, ou la papauté revient à Rome, on marque cette année d'un jubilé, et on fait le rapprochement entre tous ces événements, hein, donc on revient à Rome, et le tableau que l'on a ici, le tableau qui est romain, Le tableau est romain. Il met en scène quoi ? Auguste, empereur des Romains, et donc il met en scène la Sibylle de Tibourg, ou du moins la vision de la Sibylle de Tibourg. Donc effectivement, on peut faire le rapprochement, quoi. On ne sait pas trop exactement si c'est si c'était l'intention du peintre et de ceux qui lui ont commandé ce tableau, mais enfin quand même, le contexte historique est tout à fait évocateur, hein, je pense qu'il faut le considérer quand on aborde cette peinture. Alors justement, abordons cette peinture, ce qui frappe d'emblée, c'est la taille imposante de la Vierge à l'enfant par opposition aux proportions modestes des personnages qui sont en bas. Pourtant, les personnages qui sont en bas sont importants. On y voit Auguste et la Sibylle situés dans la partie inférieure à gauche. Auguste est ici agenouillé, la Sibylle est à côté de lui, debout. C'est aussi la présence de Dieu le Père qui étonne. Dieu le Père est en haut, dont le visage et les bras sont grands, ouverts, et qui, il apparaît au-dessus de la tête de la Vierge. On va se rapprocher aussitôt du détail. Vous voyez, donc, au-dessus de la tête de la Vierge, on voit Dieu le Père qui apparaît, et remarquez au-dessus de sa tête, c'est au-dessus de la tête de Marie, en dessous de la tête du Père, émane le souffle, l'Esprit Saint qui devient colombe, exactement comme on peut le lire dans la Genèse, Genèse chapitre 1 verset 2 par exemple, que vous retrouvez dans l'Évangile selon saint Luc chapitre 1 verset 35, ou l'Évangile selon saint Marc chapitre 1 verset 9 à 11, on apprend effectivement que le souffle, l'Esprit Saint devient la colombe. Bon, donc c'est une scène miraculeuse qui est placée au centre du disque solaire, car ça ne fait aucun doute, hein. Donc c'est bien effectivement un disque solaire qui est représenté en guise d'auréole, de nimbe, pourquoi pas, de cette Vierge qui est ici, sur un fond noir, traversée d'un faisceau de rayons dorés, constellé d'étoiles à l'extrémité, c'est bien effectivement un soleil que l'on a ici. La Vierge à la tête auréolée d'or, un visage aux traits réguliers, plutôt fin d'ailleurs, son vêtement de couleur claire est orné de broderies, de pierres précieuses également, l'enfant est assis sur l'un de ses genoux, à la tête nimbée, il tient sous le bras gauche un phylactère qui se déroule gracieusement, des paroles sont inscrites sur le phylactère, ce sont les paroles que dit l'enfant Dieu se présentant lui-même, et sous soulignant surtout la virginité de sa mère. Ainsi, sur le phylactère, on lit « Je suis un enfant du ciel, issu du Dieu vivant éternel, engendré d'une vierge pure, sans tache. » Voilà ce qui est écrit sur le phylactère. Bon, c'est à peu près ce que disait Virgile. C'est à peu près ce qu'on lit dans les bucoliques. Mais les bucoliques, c'est 39 avant notre ère. En bas, à gauche, maintenant qu'on a une idée plus précise de la Vierge. Donc en bas à gauche, on retrouve près du palais impérial qui s'élève sur plusieurs niveaux, on retrouve la Sibylle tout de noir vêtue. Donc c'est la figure qui est debout habillée en noir et qui est féminine, avec une coiffe blanche, la tête est couverte d'un voile blanc, et elle montre le ciel à l'empereur. Donc l'empereur, lui, vous le voyez, porte un riche habit, une étrange coiffure cependant, on voit mal, mais enfin l'étrange coiffure est effectivement marquée quand même, et il est déjà agenouillé, il a joint les mains en signe de dévotion, ce qui veut dire effectivement qu'il admet parfaitement qu'après lui, il y aura un enfant qui sera maître du monde, etc., etc. Et d'ailleurs, sur le phylactère brandi par la prophétesse, parce qu'il y a effectivement dans la main de la Sibylle de Tibourg un phylactère, s'inscrit le commentaire de la scène figurée, et que lit-on sur ce phylactère, je cite, « Le jour de la nativité de Jésus-Christ, l'empereur Octave, donc Auguste, entendit une voix disant, « Ceci est l'autel du ciel. » D'où la légende de l'Aracheli. Bon. Ceci est l'autel du ciel, et la Sibylle lui dit, cet enfant est plus grand que toi, lui qui se tient dans le giron de la Vierge, dans le cercle d'or du soleil, pour cette raison, il faut l'adorer. Et aussitôt, Auguste se met à genoux et adore l'enfant. Hein, donc il suit les paroles de la Sibylle, si vous voulez. Alors, l'originalité de cette peinture, c'est pour ça qu'elle est vraiment intéressante et différente de toutes les représentations qu'on pourrait présenter, dans toutes les images ou peintures qu'on pourrait présenter de la Sibylle de Tibourg. L'originalité, c'est que au récit rapporté, que je viens de commenter à l'instant, au récit de la légende de la Racheli, se greffe maintenant le récit par l'image et par le texte. Voyez par exemple que en bas à droite, vous avez encore des textes, donc c'est l'image et le texte. Donc on va effectivement voir se greffer deux événements miraculeux qui accompagnent la nativité. Quels sont ces deux événements miraculeux? Il s'agit d'abord, dans la partie inférieure droite, de la destruction du temple de la paix pour l'éternité. Donc c'est-à-dire que l'architecture que l'on voit à droite est censée être ce temple de la paix pour l'éternité, construit à Rome pour célébrer la Pax Romana, la paix d'Auguste si vous voulez. Le problème, c'est que quand on observe bien cette architecture, on voit que les murs se lézardent. Est-ce que vous voyez les lézardes sur les murs? Je vous le montre avec le pointeur, donc là, ici, là, précisément là, hein, sur les piliers, on voit effectivement que le mur en question se lézarde. Hein. Donc je reprends avec l'agrandissement, on voit effectivement les traces. Voilà. Donc c'est une architecture qui est en train de se ruiner, si vous voulez. Le temple de la paix pour l'éternité, le temple construit à Rome par Auguste pour célébrer la Pax Romana, se lézarde, les statues qui sont à l'intérieur sont précipitées à terre. Je pense que vous les voyez à l'intérieur, ce sont en fait des statues, pas des gens, mais des statues effectivement, qui tombent à terre. Et tout est en train de s'effondrer. D'ailleurs, remarquez-le, au grand effroi de quatre personnages, voilà, qui regardent ce temple, ils ne regardent pas la vision de la Sibylle. La vision n'appartient qu'à Auguste. La Sibylle montre la vision à Auguste, pas à ces quatre personnes qui voient par contre le temple s'effondrer. Donc ces quatre personnes appartiennent vraisemblablement à la suite d'Auguste, et ceci avait été prévu par l'oracle. C'est pour ça que vous avez un petit commentaire en dessous de l'architecture, un commentaire qui dit ceci. Donc le temple s'est écroulé quand une vierge a enfanté. Et on met ça sur le compte de l'oracle. Le temple s'est effondré quand une vierge a enfanté. Alors, je vous disais, à la légende de l'Araceli, se greffe le récit par l'image et le texte de deux événements miraculeux. On vient d'évoquer le premier, c'est-à-dire le temple de la paix pour l'éternité qui se lézarde et qui va tomber, si vous voulez, avec les idoles païennes à l'intérieur qui tombent, bien sûr, bon, pour la raison que j'ai évoquée à l'instant. Et voici le deuxième miracle. C'est le deuxième miracle qui se greffe à la légende de l'Araceli. Alors là, on le voit, c'est au milieu, là, c'est en plein milieu, dans la partie inférieure au centre, une fontaine de Rome. On voit une fontaine de Rome. Bon, une fontaine squat. La vasque est soutenue par trois jeunes garçons. En fait, il faut voir trois jeunes garçons. Donc là-dessus, la vasque soutenue par trois jeunes garçons est surmontée d'une fine colonne autour de laquelle s'enroule un corps de serpent à deux têtes monstrueuses. Donc là, je n'ai pas d'agrandissement, mais enfin, c'est ce qu'il faut voir. Donc la colonne, au-dessus de la vasque, la colonne, et qui effectivement a une sorte de corps de serpent avec deux têtes monstrueuses, qui sont des têtes de serpent en fait aussi, ou de dragon. Mais de ces gueules de monstrueuses jaillit une huile, c'est-à-dire que l'eau qui coulait dans la vasque s'est transformée en huile selon la prédiction de la Sibylle, la prédiction que vous pouvez lire à la base de la vasque. Je ne sais pas si vous voyez, donc à la base de la vasque, il y a effectivement un texte, et le texte dit « Une fontaine d'eau s'est transformée en huile à Rome le jour où le Christ est né de la Vierge Marie ». Voilà ce que dit le texte. Ainsi, donc, deux miracles ont eu lieu. Donc, le temple s'est écroulé quand une vierge a enfanté. Et le deuxième miracle, une fontaine d'eau s'est transformée en huile à Rome le jour où le Christ est né de la Vierge Marie. Et bien sûr, on relie tout ça à la fameuse prédiction, la prédiction de la Sibylle de Tibourg ou la Sibylle de Cube. Elles font exactement la même prédiction. Donc la naissance d'un enfant qui restaure l'âge d'or, qui ramène le paradis sur terre, etc., etc., du temps d'Auguste, bon, etc., etc. Alors voilà. Voilà dans ces peintures qui me paraissaient très très intéressantes et qui montrent à quel point, avec le christianisme, en fait, il s'est produit quelque chose qui peut paraître étonnant. On a donné beaucoup, beaucoup d'importance aux Sibylles, hein, presque plus qu'aux prophètes finalement, dans l'iconographie du moins. On pourrait le voir comme ça en fait, hein, dans l'iconographie chrétienne, la Sibylle et la Tibourtine en particulier a beaucoup d'importance. D'ailleurs, remarquez, ça sera ma conclusion, que l'iconographie de la Sibylle qu'on appelle la Tibourtine ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas au Moyen-Âge. Avec la Renaissance, elle reçoit, mais ça on l'a vu déjà, une fonction nouvelle qui est de rappeler l'une des séquences de la Passion. Alors ça, ce point, on ne l'a pas vu, donc je voulais l'illustrer justement en guise de conclusion. Donc on a bien vu qu'avec la Renaissance, la Sibylle de Tibourg était très importante, que le lieu, donc Tivoli, était aussi très important, très recherché par un Palladio, un Raphaël ou que sais-je. Bon. Et quoi qu'il en soit, voilà maintenant une nouvelle fonction que la Sibylle de Tibourg récupère ou reçoit à la Renaissance. Il s'agit de rappeler une des séquences de la Passion, et c'est alors qu'on la voit, la Sibylle de Tibourg, tenant une main, elle a comme attribut une main qui symbolise les soufflets reçus par le Christ. Et cette iconographie, on la trouve notamment et même surtout chez un certain Léonard Limousin, voilà, vous avez ses dates de vie et de mort. Donc, qui est-il? C'est un spécialiste des bois sculptés et des émaux, et surtout des émaux. Voilà un très bel émail de Léonard Limousin, mais j'aurais pu vous présenter des bois sculptés notamment de Bretagne, bon, et des émaux de Léonard Limousin qui offrent un très très bel exemple, et on pourrait multiplier et multiplier encore les références, il y en a d'innombrables références qui montre effectivement la Sibylle, et on ne peut pas se tromper. Donc vous avez Sibylla d'un côté et de l'autre Tibourg, en fait il faut lire Tibourtine, la Tibourtine. Donc on a bien la Sibylle de Tibourg, mais remarquez ce qu'elle a dans sa main. Voilà, je peux me rapprocher pour bien voir les détails. Ce qu'elle a dans sa main, c'est une main, justement. Mais la main est censée symboliser les soufflets reçus par le Christ. Les gifles, hein, si vous voulez, hein, soufflets dans le sens de gifles. Hein. Et donc ainsi, par une iconographie comme celle-ci, on indique la Sibylle de Tibourg a même annoncé la Passion. Donc la Passion, la souffrance, le Christ donc attaché à sa colonne, qui est battu par les soldats de Ponce Pilate, etc., etc. Donc sous-entendu, c'est ça, que la Sibylle de Tibourg a même annoncé la Passion du Christ. Voilà. Voilà un petit peu cette curieuse aventure de la Sibylle de Tibourg. Donc curieuse aventure, parce qu'effectivement, dans l'iconographie chrétienne, c'est inattendu, elle occupe une place qui est vraiment considérable, tout à fait considérable. Voilà. Pour ce sujet, auriez-vous des questions à poser, peut-être, sur ce sujet, qui est très riche, très dense, on aurait pu, mais en faire effectivement une illustration, en faire un cours d'histoire de l'art, si vous voulez, ce qui n'était pas l'ambition quand même, on aurait pu en faire un cours d'histoire de l'art extrêmement rempli d'images de toutes sortes, des sculptures, des gravures, des peintures, des émaux, des fontaines, on a vu aussi, oui. Alors le nom de Sibylle, donc là c'est un mystère total. Par exemple, donc on constate que les Grecs n'emploient pas le mot de Sibylle. Donc c'est un mot qui vient très très tard, qui donc est donné par les Romains. Donc ce sont les Romains les premiers qui récupèrent ce mot qui vient d'Orient, mais qui est un mystère total au niveau de l'étymologie. Donc il y a des propositions qui sont faites, mais qui ne sont pas du tout sûres et certaines. Donc ça reste un mystère, ça, l'étymologie de Sibylle. Mais les Grecs, je le disais tout à l'heure d'ailleurs, Hésiode, Homère n'en parlent pas. Et quand les Grecs doivent parler de leur prophétesse, ils ont d'autres mots, mais ce n'est pas le mot Sibylle qu'ils utilisent. Hein. Voilà, d'autres questions, oui. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, parce que là, si vous voulez, on est arrivé à un moment, donc le XVIe siècle, où on est allé trop loin dans cette récupération de cette tradition antique et païenne, donc on ne pouvait plus faire marche arrière. Et effectivement, avec la réforme, on continue effectivement, et malgré la réforme, on continue effectivement à jouer sur cette tradition-là. Donc que ce soit du côté protestant, que ce soit du côté catholique, on est très attaché à la grande tradition de la prophétie. Donc par contre, effectivement, on peut imaginer que les calvinistes de leur côté rejetaient les images, mais ils ne rejetaient pas la tradition, c'est-à-dire de la prophétie de la Sibylle, qu'ils considéraient comme authentique autant que les prophètes de l'Ancien Testament. Les protestants n'ont pas remis en question, si c'était là donc le fond de la question, non, ils n'ont pas remis en question la tradition de la Sibylle. Voilà, donc je vous remercie de votre participation, puis la prochaine fois, on verra le Graal, autre grande tradition, voilà, qui est la tradition du Graal.